Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marco Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Ludovic Augier. Dernier temps de notre semaine consacré aux transitions politiques en Afrique. Après avoir abordé lundi les suites du coup d'État au Mali, mardi les élections à haut risque du côté de la Côte d'Ivoire et puis hier la situation sécuritaire en Libye, on se tourne aujourd'hui vers la République démocratique du Congo.
Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place. Si cette étape de la transition démocratique peut être considérée comme l'aboutissement d'un combat, nous devons aussi y voir l'horizon d'une ère nouvelle.
Arrivé au pouvoir il y a un an et demi, après 18 ans de règne de Joseph Kabila et au terme d'élections largement contestées, Félix Tshisekedi s'est finalement imposé à la tête de la République démocratique du Congo. Mais cette première alternance pacifique de l'histoire du pays est loin de constituer une révolution. En effet, le clan Kabila, l'ancien président, garde la main sur la majorité parlementaire, les assemblées provinciales et l'appareil sécuritaire. Un changement limité, donc, qui pourrait bien déboucher sur une nouvelle crise, alors que l'ancien président semble bien décidé à récupérer cette fonction à la fin de la mandature actuelle. Pour ce faire, un projet de réforme électorale a été présenté en septembre, visant à désigner le chef de l'État au suffrage universel indirect, ce qui jouerait en la faveur de Joseph Kabila, précisément de quoi alimenter un sentiment d'éternel recommencement. Peut-on réellement parler d'alternance politique en République démocratique du Congo? Cette nouvelle mandature, malgré toutes les réserves qu'elle soulève, constitue-t-elle une avancée démocratique pour le pays face au duo de rivaux Tshisekedi-Kabila? Existe-t-il une place pour l'opposition? Un nouveau président, mais quel changement? C'est la grande question sur laquelle on se penche ce matin. Pour ce faire, nous avons invité d'abord Thierry Vercoulon. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Avec nous également, Johan Tilwin. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste au Monde Afrique. D'abord, peut-être une première question un peu générale. Décembre 2018, on entendait là Félix Tshisekedi qui, au fond, avait donné des espoirs d'un vrai changement politique. Alors, on sait bien dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir, mais enfin, quand même, on espérait, au fond, qu'une transition allait s'engager. D'ailleurs, on l'entendait l'annoncer. On est maintenant un an et demi après, est-ce que vous avez le sentiment que la transition, il n'y a pas eu du tout, ou que quand même, il y a certains points sur lesquels on peut un peu se réjouir? On va commencer avec vous, Thierry Vercoulon.
Allez. Il y a eu une détente, pas de transition, mais on peut dire qu'il y a eu une détente par rapport au régime précédent, qui était évidemment très très isolé, très replié sur lui-même, très violent avec l'opposition, et qui avait coupé les ponts avec beaucoup de partenaires de la communauté diplomatique. Donc le principal changement qui est arrivé avec Félix Tshisekedi, ça a été de détendre l'atmosphère aussi bien en interne au Congo avec l'opposition que en externe avec les partenaires internationaux.
Johan Tilwin, vous faites le même état des lieux de la transition. On a relâché un peu en interne et puis on essaye, en tout cas, on est sur la voie de la normalisation, peut-être pas, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas on détend aussi les choses avec les voisins. On va parler évidemment tout à l'heure de, par exemple, du Rwanda, où on sait que Tshisekedi a fait un déplacement très vite pour aller rencontrer Paul Kagame. Ça fait partie justement de cette détente qu'évoquait Thierry Vercoulon. Quel état vous faites de cette transition?
Oui, en interne, en fait, on constate qu'il y a un rapport de force qui est quand même très tendu et assez difficile à analyser entre l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel chef de l'État, donc Félix Tshisekedi, et que il y a parfois sur certains dossiers une sorte de paralysie en fait. Cette, ce qu'ils appellent la cohabitation ne fonctionne pas toujours très bien, et donc pour échapper un peu à cette atmosphère difficile pour le chef de l'État Félix Tshisekedi, on a vu que la première année, il a fait beaucoup de diplo-régional, de diplomatie régionale, où il a voyagé, il a été et c'est finalement assez plus simple, et il avait aussi cette première année un soutien, un engouement de la part des partenaires internationaux. Ce dont il a profité. Maintenant, sur le plan national, on sent bien que c'est toujours compliqué, notamment sur le secteur de la sécurité, des mines et d'autres secteurs stratégiques.
Ouais, au fond, l'activisme diplomatique de Tshisekedi, il révèle peut-être surtout son incapacité, son manque de marge de manœuvre sur le plan intérieur. Thierry Vircoulon, au fond, de quelle marge de manœuvre il dispose encore ? Parce que quand on regarde les choses, au Parlement, en gros, ce sont les pro-Kabila qui ont la main. Sur l'exécutif, c'est un peu la même chose. Les principaux portefeuilles sont à la main des pro-Kabila. Si on regarde l'appareil sécuritaire, c'est la même chose. Kabila a gardé la main. Quelle marge de manœuvre il reste à Tshisekedi sur le plan intérieur ?
Très peu, comme vous l'avez dit. La ruse électorale de Kabila, ça a été en effet de céder son fauteuil pour garder tous les autres. Et donc de garder la main sur les institutions du pays, donc pour passer une loi, pour que le président passe une loi qu'il le souhaite, il faut qu'il ait la majorité, c'est-à-dire les votes du clan Kabila. Donc on voit que toute perspective de réforme est du coup bloquée. Le seul levier qu'il a, c'est celui de la rue. On l'a vu il y a quelques mois où il y avait une volonté de changer, je me rappelle plus exactement quoi, dans le secteur de la justice, la rue s'est mobilisée contre cette mesure.
Mais il s'agissait pour l'exécutif d'avoir une main mise encore plus forte sur l'appareil judiciaire.
C'était une initiative en fait qui venait du clan Kabila par le Parlement, et donc les militants de l'UDPS se sont mobilisés dans la rue. Donc il y a eu le seul levier, ça a été la rue pour bloquer cette mesure. Et donc on sent bien en effet à quel point la présidence est démunie et n'est pas en mesure grosso modo d'imprimer sa marque et de mettre en œuvre son programme.
Mais jusqu'où est-ce que justement il a le soutien de la rue ? Parce qu'effectivement sur ce projet de réforme judiciaire, il y a des partisans de Tshisekedi qui sont descendus dans la rue. Et c'est à ce moment-là que Tshisekedi a pris la parole pour s'opposer publiquement, ouvertement, à ce projet de réforme judiciaire. Mais au fond, et donc il a été abandonné ce projet. Mais au fond, qu'est-ce qui a fait qu'on l'a abandonné ? Est-ce que c'est la parole de Tshisekedi qui a pesé et qui a fait comprendre au fond aux parlementaires qu'il fallait cesser, ou c'est la rue ? La question étant, Johan Tilwin, jusqu'où est-ce que la rue peut s'opposer au projet au fond de retour plus officiel au pouvoir de Joseph Kabila ?
La rue, c'est toujours un peu une inconnue en RDC, et aussi un fantasme. Mais la rue peut aussi se retourner contre Félix Tshisekedi. Elle n'est pas acquise ad vitam aeternam au président. Dès qu'il a été élu, les militants du DPS, donc le parti cofondé par son défunt père, un leader historique de l'opposition à Mobutu, à Laurent Désiré Kabila et à Joseph Kabila, ces militants avaient dit à Félix, lors de son investiture, n'oublie pas, papa a dit le peuple d'abord. Et si cette rue, si ces quartiers populaires de la cité à Kinshasa ne voient pas un petit peu de dividendes, un peu d'amélioration de leur vie, ils peuvent aussi tout à fait constituer un rapport de force avec leur président.
Et c'est le cas aujourd'hui ?
L'UDPS est de toute façon, le parti est assez divisé aujourd'hui, assez brouillon dans son organisation, et le président Félix Tshisekedi n'a pas visiblement, ne s'est pas véritablement occupé en fait de son parti pour l'instant. Donc la rue, en tout cas celle de l'UDPS, qu'on appelle l'IMETE, le Parlement debout, etc., etc. Mmh, mmh. C'est quelque, c'est, ce sont des militants qui sont également très vigilants à l'égard de ce que fait Félix Tshisekedi.
Mmh. D'autant que officiellement, il est en fait en coalition avec Kabila. Donc en réalité, les deux sont, en tout cas pour le temps du mandat de Tshisekedi, dans le même bateau d'une certaine manière. Alors contraint du point de vue de Tshisekedi, mais il n'empêche qu'il y a quand même un contrat de coalition.
Absolument, et un contrat dont on ne connaît pas les termes, c'est un contrat confidentiel et secret.
Thierry Vercoulon, les termes, on sait au moins qu'il s'agit pour Kabila de récupérer le pouvoir en 2023.
Oui, mais le contrat, il est tout à fait virtuel. Depuis le début, on voit bien que c'est une relation de cohabitation, comme il était dit, et la cohabitation, c'est une épreuve de force permanente. C'est pour ça qu'on voit alterner des moments de tension qui donnent après lieu à une rencontre entre le président Kabila et l'ancien président Kabila et le président actuel, au cours desquels une discussion évidemment secrète, mais où tout s'aplanit comme par mystère. Et donc on va voir pendant 5 ans, on va fonctionner la politique congolaise comme ça, avec des hauts et des bas et des dialogues et jusqu'à ce qu'on arrive aux élections de 2023.
Ouais, on a plani et puis ensuite le lendemain, nouvelle crise, parce que au lendemain justement de cette fameuse rencontre que vous évoquiez, Tshisekedi apprenait que était placé à la tête de la CENI, qui est la commission électorale, un partisan de Kabila. Donc en réalité, on est dans un va-et-vient incessant entre crise, tension et donc et une forme de cohabitation.
Oui, c'est pour ça que rien n'avance. C'est pour ça que rien n'avance au Congo, parce que on est en permanence dans ce jeu d'épreuves de force, d'alternance, de détente et de mini-crise. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas de réformes qui peuvent être mises en place pour que le pays avance.
Alors, est-ce qu'il y a un moyen, Joanne Tilwin, de débloquer cette situation? Il y a eu au printemps un très proche de Tshisekedi qui s'appelle Vital Kamer, qui a été mis en prison pendant un temps. Il faisait vraiment figure de conseiller de premier plan. Certains l'appelaient même le vice-président. C'était un allié très important de Tshisekedi. Et il se trouve qu'il a été accusé de détournement de fonds, de ce fameux programme des 100 premiers jours. Et derrière cela, on a un Félix Tshisekedi qui, quelques semaines, quelques mois plus tard, a demandé à l'inspection générale des finances de lancer un certain nombre d'audits dans plusieurs secteurs pour y examiner les exonérations fiscales auxquelles auraient droit des proches de l'ancien président Kabila. Comment interpréter cette séquence, et est-ce que au fond Tshisekedi est en train d'essayer de faire plier le camp Kabila? Est-ce qu'il peut y parvenir et casser finalement cette mécanique qu'on décrivait qui empêche le pays d'avancer?
Vital Kamerhe, donc c'était le directeur de cabinet du président Tshisekedi,
qui fut un temps a été même le directeur de cabinet de Joseph Kabila, c'est dire.
Et était président de l'Assemblée nationale. Ouais. Et il avait fait la campagne effectivement, ouais, parce qu'il parle toutes les langues du pays. Et donc vous avez dit, il était proche de Tshisekedi, mais il était aussi très proche de Joseph Kabila, Vital Kamerhe. Et donc à qui profite cette judiciarisation d'un dossier de corruption assez lourd? C'est encore, il y a plusieurs avis, plusieurs analyses possibles. En tout cas, il y avait 3 personnes pour un seul siège. Il n'y en a plus que 2, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Et cette lutte anticorruption, qui était une des promesses de Félix Tshisekedi, on voit bien que, comme dans beaucoup d'autres pays du continent en ce moment, cette lutte anticorruption est instrumentalisée aussi à des fins politiques, elle est manipulée, et par ailleurs, il bénéficie des conseils et d'encouragements très très forts de la diplomatie américaine pour mener à bien cette lutte anticorruption, dans l'espoir des Américains d'atteindre Joseph Kabila. Or, Félix Tshisekedi, comme l'a dit Thierry, il sait qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir.
On va parler évidemment de la diplomatie américaine. Thierry Vercoulon, pour comprendre aussi peut-être un peu les choses et comprendre cette capacité de Joseph Kabila à se maintenir au pouvoir, alors même qu'officiellement il l'a quitté, il faut peut-être introduire une autre figure qui est très importante en République démocratique du Congo. C'est celle de Dan Gertler, qui est un milliardaire israélien. Ça fait des années que cet homme fait des affaires dans l'exploitation minière. On sait que c'est un très proche de Kabila. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le personnage et surtout nous dire son importance dans le dispositif Kabila? Jusqu'où est-ce qu'on peut dire que c'est en partie par cet homme que Joseph Kabila maintient sa capacité d'influence?
Bah, il a été l'argentier en fait du régime Kabila, puisque il est son origine socio-professionnelle, c'est le milieu du diamant, il a rencontré Joseph Kabila à l'époque où Kabila père était au pouvoir, ils se sont entendus et ils sont mis à faire des affaires ensemble. Et donc pendant les 15 années de pouvoir de Joseph Kabila, petit à petit, il est devenu le grand argentier du clan Kabila. Comme vous le disiez, comme il avait la signature du président, ça lui a permis d'obtenir un certain nombre de contrats, de ressources naturelles, des concessions minières et pétrolières aussi importantes, et de jouer simplement le jeu qui consistait à revendre ces concessions en multipliant le prix par 3 ou 4, puisque lui-même n'est pas un minier, n'a pas de société minière. Donc c'est ça son rôle. Il a été le grand argentier. Il y a d'autres hommes d'affaires occidentaux dans l'entourage de Kabila, mais lui est en effet celui qui occupait occupe encore le premier plan. Et il a apporté sa compétence financière, un régime qui a besoin toujours, enfin celui de Kabila comme beaucoup d'autres, a besoin d'experts financiers pour faire les montages nécessaires entre les différents paradis fiscaux et monter des compagnies fantômes qui s'emboîtent les unes dans les autres de façon à ce qu'on puisse perdre la traçabilité de l'argent.
Et quels sont ses liens avec Tshisekedi? On sait que quelques jours après avoir été élu, il a rencontré Tshisekedi, Dan Gertler.
Oui, j'en sais pas plus personnellement.
Oui, personne n'était.
Je sais pas, mais il est sous sanctions américaines, donc ça pose des questions puisqu'il est visé par des sanctions du Trésor américain, donc il n'a pas le droit d'opérer en dollars, en tout cas en RDC.
Sur les États-Unis, justement, on sait que l'administration américaine a assez rapidement apporté un soutien à Félix Tshisekedi. Quel est l'état de ce soutien aujourd'hui? Est-ce que l'administration mise toujours sur lui pour essayer d'engager une vraie réforme dans le pays, ou est-ce qu'au fond elle a abandonné Joanne Tillouine?
Non, enfin, les États-Unis ont fait le choix d'accepter l'élection de Félix Tshisekedi, qui était contestée, et de le soutenir dans l'espoir de justement ensuite pouvoir écarter progressivement la mainmise sécuritaire et économique de Joseph Kabila et de ses hommes. Donc elle continue de soutenir. Il y a un vrai activisme de l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, qui voit très régulièrement Félix Tshisekedi, qui le conseille, les États-Unis envoient des conseillers spécialistes dans la lutte anticorruption. Ils sont très 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 actifs, disons. Avec en toile de fond également aussi la guerre économique avec la Chine sur les minerais stratégiques, cobalt, coltan et autres.
Thierry Vircoulon, ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on a commencé à échanger autour de ce régime Kabila, peut-on dire, parce qu'au fond, même s'il n'est plus président, il a toujours la main sur le pays. Il y a quelque chose d'absolument incroyable, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on évoque cette question de la transition en Afrique, qu'on parle de ce fameux tripatouillage constitutionnel par lequel des chefs d'État vont briguer un troisième mandat. Kabila, lui, au fond, il a été assez malin, puisqu'il n'a pas brigué ce mandat qui allait poser évidemment problème. Il savait que tous les analystes spécialiste, constitutionnaliste, allait être vent debout contre cette option-là. Il s'est retiré, en tout cas officiellement. Il s'est arrangé pour monter, au fond, une coalition par laquelle, en réalité, il garde le pouvoir. En fait, cet homme a réinventé, parce qu'il sera là, a priori, en 2023, donc il pourra refaire le même coup peut-être 10 ans plus tard. Il est encore assez jeune. Il a réinventé la présidence à vie en Afrique, Thierry Vercoulon.
Non, je pense pas. Premièrement, en 2023, on verra ce qui va se passer. Rien n'est acquis pour le moment. Et deuxièmement, il faut pas oublier que s'il a dû céder son fauteuil, c'est contre son gré. Précisément parce qu'il n'a pas réussi ce que Paul Biya, ce que Paul Kagame, ce que Sassou Nguesso de l'autre côté de la rivière ont réussi. C'est-à-dire à changer la constitution pour pouvoir se représenter.
Pourquoi est-ce qu'il a échoué?
Parce que je pense que c'était une opération qui était trop chère, in fine, puisqu'il fallait acheter le Parlement, et les enchères étaient extrêmement hautes.
C'est-à-dire, vous avez l'air de parler quasiment de... les enchères étaient très hautes. Il y avait un prix qui était fixé, enfin...
Oui,
c'était quoi, le prix politique et le prix économique?
Il y a pour que les députés votent la réforme de la Constitution, il fallait en effet les arroser, et les arroser largement. Et donc, au Congo, comme souvent, comme pour les votes, il y a un prix plancher, et puis une monte, c'est des enchères. Et donc, l'enchère d'une révision constitutionnelle qui aurait permis à Joseph Kabila de rester au pouvoir était extrêmement élevée. Et donc, après, il y avait évidemment une opposition là-dessus, mais ça aurait pu se faire comme dans la plupart des autres pays africains où le président achète le Parlement et peut changer la Constitution, ou alors fait un référendum bidon où le peuple, à 95%, l'acclame et dit qu'il faut qu'il reste au pouvoir et donc il faut qu'il change la Constitution. Là aussi, ce sont des méthodes très éprouvées en Afrique. Il a échoué dans ces techniques-là. Et donc, loin d'inventer quelque chose de nouveau, il s'est retrouvé, au contraire, dans une situation d'échec par rapport à ses grands anciens qui ont été beaucoup plus malins.
Est-ce que vous êtes d'accord, Joanne Tilwin, pour dire que tout cela, au fond, n'est pas garanti? Peut-être qu'il ne sera pas président à vie. Il est encore assez jeune. Je ne sais plus quel âge il a, 48 ans, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Mais pour poursuivre un tout petit peu, si on regarde du point de vue arithmétique les choses, on a quand même le sentiment qu'il a l'avantage. Alors, je me réfère aux chiffres qui avaient été donnés à l'époque de l'élection présidentielle. Je sais bien qu'elles ont été contestées, mais si on regarde ces chiffres-là d'un point de vue arithmétique, on avait un Tshisekedi qui était à un peu plus de 7 millions de voix, on avait un Martin Fayoulou, celui qui se présente comme étant le véritable opposant, qui était à peu près à 6 millions, et puis le dauphin de Kabila qui a échoué, parce que la deuxième stratégie de Kabila consistait à faire élire son dauphin, lui était à peu près 4 millions. Donc si je fais le total... J'ai 11 millions d'un côté et 6 de l'autre, donc pas suffisamment pour permettre à un Martin Fayoulou de s'imposer en 2023.
Oui, ça va être compliqué, je crois, pour Martin Fayoulou. Après, les chiffres en RDC, je pense qu'il faut un peu se garder de faire des mathématiques électorales.
On peut faire que ça.
L'épiscopat avait publié ses vrais chiffres.
Alors, c'était lesquels?
Et donc, dans les vrais chiffres, c'était Martin Fayoulou qui avait remporté l'élection.
À combien?
Vous vous souvenez? En tout cas, il avait une majorité assez large.
Qui laisse penser qu'il pourrait, à condition évidemment qu'on ait des élections libres et démocratiques en 2023, ce qui est très loin d'être évident, mais il pourrait, d'un point de vue arithmétique, l'emporter en 2023.
D'un point de vue arithmétique, oui, mais avec beaucoup d'inconnus. Faire une campagne électorale en RDC, ça coûte mais très très cher. C'est hors de prix. C'est un pays où il n'y a pas de route. Il faut voyager en avion, en jet. Comme l'a dit Thierry, il faut distribuer de l'argent. Il faut aller dans les provinces, dans l'arrière-pays. Il faut avoir une logistique pour son parti. Il faut avoir des vraies bases, des militants, etc., etc. Ce que ne peut pas se permettre aujourd'hui tous les candidats. Donc c'est très incertain. Par ailleurs, ce que veut faire Joseph Kabila, on ne sait pas. C'est un chef d'État qui est réputé, qui est très taiseux, mais qui est aussi un stratège ou un tacticien, c'est selon. Et voilà, je pense qu'il réserve, lui seul sait, et que voilà, on peut pas savoir ce qu'il prépare.
Pour évidemment bien mesurer la situation, il faut aussi regarder une question qui est très prégnante en RDC, qui est celle de l'insécurité. On va en parler juste après, peut-être une petite archive. C'est justement Tshisekedi qui parle de cette question de l'insécurité à l'Assemblée générale des Nations Unies. On écoute.
La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale du pays demeure préoccupante. La paix n'y est pas encore totalement retrouvée. Certains éléments résiduels des groupes armés, aussi bien nationaux qu'étrangers, y sont encore actifs et continuent à semer la mort et la désolation. Je lance un appel à la communauté internationale afin que des sanctions appropriées, ciblées et efficaces leur soient appliquées. Ma détermination est de redonner le plus tôt possible le sourire aux populations de l'Est de mon pays qui vivent dans l'insécurité depuis plus de deux décennies.
Voilà peut-être le plus grand défi en réalité de Tshisekedi. La paix n'est pas totalement retrouvée, c'est quand même un doux euphémisme quand on connaît l'histoire du pays. Et encore, Tshisekedi parle de 2 décennies, mais en réalité, ça fait bien plus longtemps qu'il y a des violences permanentes dans cette partie-là du pays. Joanne Tillouine, je voudrais peut-être commencer avec vous, parce que vous êtes rendu récemment en Ituri-Kéa. Vraiment à la frontière. Ah, c'était pas vous alors.
Non,
c'était pas vous. Alors, on va peut-être faire un état des lieux de la situation sécuritaire dans cette partie est du pays. Avec vous, Thierry Vircoulon, vous qui suivez ça depuis très longtemps.
Oui, mais juste avant de venir à ça, je voudrais revenir sur ce qu'on disait, sur la façon d'analyser l'élection au Congo et dans beaucoup d'autres pays africains. Je pense que vous parliez des chiffres. La question, c'est pas tant combien tel candidat a de partisans dans la population que combien tel candidat a de partisans à la commission électorale. Puisque on l'a vu avec les élections dernières et les élections de 2011, le trucage est largement fait par la commission électorale. Et donc, il est très important de s'assurer son contrôle. Sur l'insécurité, on a là aussi, la situation n'a pas changé. On est dans une triste continuité, si je puis dire. Il y a toujours des groupes armés de l'Ituri jusqu'au Tanganyika. Il y a eu un rapprochement avec... Le seul changement, c'est un rapprochement avec Kigali, un rapprochement sécuritaire qui a permis des opérations de l'armée rwandaise en territoire congolais. Mais la situation reste toujours aussi délétère, avec un conflit délocalisé burundo-rwandais qui se déroule au sud Kivu et un certain nombre de groupes armés, alors qu'ils sont revenus sur le devant de la scène, qui étaient dormants en Ituri, puisque l'Ituri a été en conflit jusqu'en 2006-2007, et après la situation était relativement calme jusqu'en 2018, où là on voit une résurgence du conflit qui prouve que justement dans l'est du Congo rien n'a été fondamentalement réglé et que finalement il fallait pas parler de paix en Ituri, mais d'un apaisement, et que cet apaisement est extrêmement précaire, une sorte de parenthèse entre deux moments de conflit. Et ça montre aussi que les milliards qui ont été investis par les sponsors de la paix dans cette région, finalement, n'ont pas eu beaucoup de résultats.
Et l'arrivée de Tshisekedi n'a rien changé à l'affaire. Il s'est rendu quelques mois après son arrivée au pouvoir à Bunia, qui est le chef-lieu de l'Ituri. Il y a fait des promesses, il y a eu des engagements qui ont été pris sur le terrain. Aucun changement ?
Non. Il y a maintenant, cet été, il y a eu des négociations parce que le gouvernement congolais, désespérant de la situation, a été sortir de prison un certain nombre de leaders des groupes armés du conflit précédent pour les envoyer comme négociateurs avec les groupes armés actuels. Tout simplement parce qu'ils viennent plus ou moins de la même tribu. Et donc on voit bien qu'on tourne en rond avec on voit bien cette prime à l'impunité, puisqu'on la situation est tellement désespérante que le gouvernement ne sait plus quoi faire sauf aller chercher des criminels pour négocier avec d'autres criminels un apaisement.
Ce que fait Tshisekedi, en fait.
Oui, c'est ce qui a lieu actuellement. Hein.
Joanne Tillouine, je me suis trompé, vous y êtes pas rendu, mais en revanche, vous aviez signé un article sur l'Ituri.
Oui, tout à fait.
C'est bien vous, ça. RDC en Ituri, le retour à la paix se fait attendre. Pardonnez-moi, j'ai voulu vous y envoyer alors que vous étiez resté là. Joanne Tillouine, une réaction.
Oui, je suis complètement d'accord avec Thierry. Et on a vu que Tshisekedi avait tendu la main à tous les groupes armés, les appelant à se démobiliser. Certains ont saisi l'occasion, sauf qu'on problème. Le problème, c'est qu'on voit que le projet, il n'y a pas de programme de DDR, donc de désarmement, démobilisation et réintégration. Donc on a des centaines et des centaines de miliciens, de groupes armés qui végètent dans la brousse autour de Bunia et ailleurs, en attendant d'être pris en main par le gouvernement, sauf que ils ont pas de quoi manger pour certains, enfin c'est ce qu'ils disent, etc., etc.
Mais normalement des programmes, il y en a normalement, Joanne Tillouine. Il y a eu des accords de paix 2003, oui. 2009, 2013. Il y avait un programme de DDR précisément, alors qu'il soit pas mis en place, j'entends, mais il y en avait.
Ouais, mais depuis l'élection de Tshisekedi, il y a pas véritablement de stratégie de réflexion DDR. Par ailleurs, la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC, par la voix de sa chef Leïla Zerougui, a dit bon, pas d'impunité pour les responsables de massacres. On peut pas comme ça trop facilement, dit-elle, pardonner, etc. Un DDR, c'est un processus qui est très compliqué. Il faut intégrer. Il faut mettre en scène le pardon, faut aussi avoir des vrais projets de réintégration, sinon les miliciens, ben, ils retournent au maquis parce que c'est plus rentable.
Thierry Vercoulon, vous voulez réagir?
Avant, il y a eu des DDR, mais ce qui s'est passé, c'est que ils ont échoué, et donc les bailleurs maintenant ont pris acte de ces échecs répétés. Et non plus l'intention de financer des DDR. Et donc, quand le président Tshisekedi a dit aux groupes armés qu'il allait les prendre en compte, etc., il a parlé, évidemment, avant de discuter avec les bailleurs, avec les Nations Unies, il a fait une promesse creuse, grosso modo, et en fait, derrière, en effet, il n'y a pas d'argent, et il n'y a pas non plus...
Parce que l'ONU a bloqué.
Non, pas parce que l'ONU a bloqué, parce que personne ne veut de nouveau dilapider des centaines de millions pour un DDR qui échoue.
Ce qui est assez dangereux, parce que aujourd'hui, ben, il y a vraiment pas mal de miliciens qui attendent, et sinon pas ce qui a été promis, ce qui a été, ben, ils vont retourner au maquis et reprendre les massacres, en fait, probablement.
Mais je suis pas sûr que ça soit le premièrement que le DDR soit la solution, parce qu'il a eu des tas d'échecs, et deuxièmement, ce qu'on observe en fait, c'est que les miliciens ont l'habitude de se mobiliser, de se démobiliser, etc., en fonction des opportunités économiques. Puisque faire partie d'un groupe armé, c'est un job. C'est un job. À partir du moment où ce job-là, on est dans une période où il paye, eh bien, des tas de jeunes rejoignent le groupe armé. Quand le job commence à être moins rémunérateur, eh bien, et qu'il y a d'autres opportunités, il commence à se diriger vers d'autres opportunités. Donc, c'est cette question des opportunités économiques pour les combattants qui est, pour les combattants, mais en fait pour la jeunesse
pour tout le monde.
Général. Enfin, surtout les jeunes, parce que c'est eux qui composent les groupes armés. C'est cette question-là qui doit être abordée.
Ouais, donc, ce que vous nous dites, sans le dire, c'est qu'en réalité, la solution pour éviter justement ce va-et-vient, c'est de développer économiquement la région. Point.
C'est de créer des emplois qui soient durables pour la jeunesse rurale, surtout, parce que les groupes armés sont surtout alimentés par les jeunes ruraux.
L'autre évidemment élément important pour lutter contre cette insécurité, c'est d'avoir une armée nationale qui est en capacité justement de répondre à ce défi sécuritaire. On va mettre de côté la question évidemment décisive du développement que vous mettiez en avant, mais pour ce faire, faut-il encore avoir la main précisément sur le dispositif militaire national. C'était l'une des ambitions de Tshisekedi que d'essayer de reprendre un peu la main sur ce dispositif. Aujourd'hui, force est de constater, Jean Tilouin, que c'est un échec total. Mais Joseph Kabila, une fois encore, a gardé la main sur ce secteur-là.
Oui et non, il y a eu des évolutions, il y a eu quelques généraux qui ont été placés par Félix Tshisekedi, etc. Après, je pense qu'il ne faut pas surestimer la centralité du pouvoir de Kinshasa sur des généraux qui se retrouvent à 3000 km à l'est et qui sont eux-mêmes des entrepreneurs de guerre pour certains d'ailleurs sur liste rouge des Nations Unies. Voilà, donc il y a beaucoup d'analystes parlent des FRDC, donc les Forces Armées de la République Démocratique du Congo, comme un belligérant, comme un acteur du conflit armé, plutôt que comme une force capable de d'apaiser les choses et de faire la guerre pour obtenir la paix. Mais Tshisekedi a mobilisé, notamment au Nord Kivu, dans la région de Beni, a lancé ce qui devait être une opération militaire foudroyante contre un groupe armé d'origine congolaise qui s'appelle les ADF, les Forces Démocratiques Alliées. Bon, on voit que... Rien n'a véritablement changé. Quoi.
Thierry Vercoulon, on disait tout à l'heure, on rappelait que Félix Tshisekedi, et c'était l'un de ses premiers gestes diplomatiques, s'était rendu aux commémorations pour le 25e anniversaire du génocide rwandais. C'était une initiative d'ailleurs qui avait été assez critiquée, parce que il faut se rappeler aux auditeurs qu'il y a beaucoup de Congolais qui reprochent au Rwanda d'avoir été à l'origine d'un certain nombre de conflits qui ont secoué le pays entre 96 et 2003, ce qui de fait n'est pas complètement faux. Mais il y a eu en tout cas cet effort de Tshisekedi d'aller vers une normalisation des relations avec Kagame. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui justement de cet effort de normalisation ?
Le dialogue...
Parce que tout est lié en fait, hein, pour...
Oui, le dialogue a été établi entre les deux capitales. Évidemment, Tshisekedi voulait aller assez loin et donc il a été rapidement bloqué par, comme vous le disiez, l'hostilité de l'opinion publique à ce rapprochement, plus évidemment des réactions au sein de l'état-major congolais. Mais il y a eu le seul résultat, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'opérations de l'armée rwandaise dans les Kivus qui ont permis d'affaiblir, d'éliminer un certain nombre de leaders des FDLR, mais qui ne résolvent pas le fond du problème. Et surtout, on voit que les efforts de diplomatie régionale de Tshisekedi se heurtent aussi à ses voisins, puisqu'il n'arrive pas à mettre en place la plateforme de dialogue avec l'Ouganda, le Rwanda, l'Angola et le Burundi. Une réunion était prévue à la fin du mois de septembre qui a été annulée parce que le Rwanda a notamment un ennemi au nord et au sud, donc a des très mauvaises relations avec le président Museveni et avec le nouveau président burundais Evariste Ndayishimiye. C'est Tshisekedi qui voulait jouer un peu les médiateurs entre eux et pour le moment bloqué. Et évidemment, on sait bien que toutes les tensions et tous les conflits qui ont lieu entre ces trois pays de l'est du Congo se répercutent par des proxys à l'intérieur du territoire congolais. Donc c'est aussi évidemment l'intérêt de Kinshasa d'essayer de calmer les choses chez ses voisins pour éviter que ça ne se répercute trop fort chez lui.
Jean Tilouin, avant d'accueillir un nouvel invité justement et d'évoquer le Burundi, où là aussi il y a un nouveau président qui est arrivé, mais on a un régime qui est lui resté bien en place. Jean Tilouin.
Ben oui, c'est disons que la médiation, la tentative de diplomatie régionale de Tshisekedi, pour l'instant elle stagne un peu, et puis après il y a un problème de crédibilité aussi. Tshisekedi c'est un président qui est un civil, qui c'est le seul dans la région en fait à pas avoir porté les armes, que ce soit dans le maquis ou dans l'armée. Il est face aussi à des leaders qui s'estiment des parrains régionaux, Museveni et Kagame, et qui sont eux-mêmes à couteau tiré avec des rivalités et des tensions très très fortes, sécuritaires et politiques. Donc, voilà, il y a un problème de crédibilité de la part du président congolais dans une région où il est délicat, il est face, entre guillemets, à des vieux loups, qui sont habitués à aux manigances des services de renseignement, de l'armée, etc., etc. Et on le voit bien d'ailleurs, ces négociations sont gérées par des militaires du côté ougandais, burundais et rwandais, ou des hauts gradés des services de renseignement, pas par des diplomates.
On était avec vous Thierry Vircoulon et vous Johan Tilouin dans cette série africaine Lost in Transition. On parle de la RDC avec ce nouveau président. Quel changement ? C'est la question qu'on se pose. On parle de la RDC mais on pourrait aussi parler du Burundi puisque l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza est décédé en juin dernier. Il a été remplacé par son dauphin Évariste Ndayishimiye, élu à l'issue d'un scrutin qu'il a remporté avec près de 70% des suffrages. On va parler tout de suite du Burundi.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Membre des partis politiques, membre des coopératives locales ou tout citoyen en son nom propre, soyez prêts, car désormais vous êtes en droit de vous exprimer librement face à l'État-providence. Nous allons renforcer le dialogue entre le gouvernement et les partis politiques pour que chacun contribue dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous souhaitons que le terme « parti d'opposition » n'est plus sa place au Burundi. J'aimerais vous annoncer que mes adversaires politiques avaient des aspects positifs dans leurs programmes respectifs et qui m'ont marqué. Demain, je ferai appel à eux pour qu'ils m'orientent dans la façon de pouvoir mettre en pratique ceci.
Voilà, donc extrait du discours d'investiture d'Évariste Ndayishimiye, donc élu en juin dernier. Il faut peut-être rappeler quelques mots du contexte général, parce qu'on est dans un pays qui traverse une crise politique violente à la suite d'une crise post-électorale très importante en 2015, après la réélection pour un troisième mandat de Pierre Nkurunziza, avec à les clés des répressions brutales, des milliers de personnes déplacées. C'est un bilan qui fait état de 1700 morts et 400 000 déplacés. Puis au cœur de ce système répressif, on les connaît, ce qu'on appelle les Imbonerakure, cette milice du régime qui déploie sa violence sous couvert d'un vernis de mouvement politique de la jeunesse. Bonjour Nestor Bidadanouré. Nestor Bidadanouré, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Bonjour,
très bien.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe, écrivain. L'arrivée de ce nouveau président, elle avait laissé espérer que le régime s'ouvrirait peut-être un petit peu. Alors, on n'est pas de doux naïfs. On sait bien que c'était le dauphin de Pierre Nkurunziza, mais souvent, lorsque de nouveaux autocrates arrivent en place, il y a un moment d'ouverture un peu pour qui permet d'asseoir le pouvoir en place. Ça fait assez peu de temps qu'il est là, mais est-ce que ce mouvement d'ouverture, il a eu lieu ou est-ce que c'est raté ?
Non, on peut vraiment dire que c'est raté parce que les chiffres qui sont avancés par les défenseurs des droits humains, hein, les plus crédibles, comme la LGTK, montrent une détérioration très sensible de la situation des droits de l'homme. Il y a eu beaucoup de morts depuis son arrivée. Et en plus, il n'y a pas eu de démarche particulière pour essayer de rencontrer l'opposition et justement en exil ou la société civile. Voilà. Il n'y a pas eu de démarche, en tout cas dans ce sens, une démarche sérieuse.
D'accord, mais vous diriez que pire, la répression s'est encore aggravée depuis l'arrivée de ce nouveau président, en 3 mois ?
Absolument. C'est aggravé, elle est même terrifiante. On a continué à observer des personnes, et notamment des membres de l'opposition du parti CNL et aussi des membres d'organisations de défense des droits humains qui sont assassinés, d'autres citoyens dont on ne connaît pas et on trouve toujours leur corps un peu partout dans les forêts ou parfois ils sont sur les routes. Et en tout cas, les arrestations continuent et les tortures continuent.
Mais pardon, mais comment comprendre ce durcissement ? Est-ce qu'il faut le voir comme le révélateur, au fond, d'un manque de légitimité qui expliquerait eh bien, qu'il a besoin, ce nouveau président, d'y aller encore plus fort, si je puis dire, sur la répression ? Comment le comprendre ? Nestor Bidadanouré, est-ce que vous m'entendez ? Oui.
Oui, en fait, je pense que ça mélange de deux choses. C'est à la fois une idéologie à la fois ethniste avec une espèce de radicalisme religieux aussi, et qui est là, hein, qui est l'identité du sein des DCD, mais c'est aussi l'absence de légitimité, et parce que déjà les élections du mai 2020, ce sont des élections exclusives. Je rappelle que la plupart des partis politiques n'ont pas pu participer à ces élections. Et en plus, tous les observateurs ont constaté aussi que ces élections exclusives n'étaient pas du tout, n'ont pas été remportées en réalité par le pouvoir en place. Mmh. Il y avait des foules qui sortaient et tous, ils étaient en fait pour le parti CNL de Rwassa, et c'était une manière de dire on vote à celui qui est là, pour celui qui est là, pour juste se débarrasser de son pouvoir. Voilà, donc je pense qu'il y a en effet un problème aussi de légitimité.
Vous parlez de radicalisme religieux. Pour bien comprendre ce qu'il y a derrière cette formule, il faut peut-être préciser que l'actuel président, comme le précédent d'ailleurs, est membre d'une église évangélique qui s'appelle l'Église du Rocher. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots et nous expliquer en quoi, justement, ces convictions religieuses influent sur une certaine conception, en tout cas sur sa conception du pouvoir ?
Oui, en fait, historiquement, le Burundi est un État laïque, hein. Et il y avait la nette séparation entre la chose publique et la chose religieuse. Et le changement, c'est avec l'arrivée en 2005 du président Pierre Nkurunziza, président du CNDD-FDD, qui qui est un président évangéliste du courant charismatique. Et donc, à partir de ce moment, tout le discours politique a été pris en otage, en fait, par un discours tout à fait religieux. Et donc, on a une espèce de mélange. Jusqu'à maintenant, la démagogie politique est surfait beaucoup plus sur l'ethnisme. Hein. C'était un discours ethniste. Tantôt, c'était des courants qui présentaient les Hutus comme les ennemis, de manière globale, ou alors un discours qui présentait les Tutsis comme les ennemis. Là, on était sur le terrain un peu d'un discours ethniste. Mais cette fois-ci, c'était vraiment le discours religieux qui présentait les opposants comme des démons. Et bien sûr, ce courant évangéliste et démagogique aussi a un discours anticolonialiste qui glisse très rapidement un discours anti-blanc. Et c'est aussi un discours qui, par exemple, dit et s'en prend régulièrement aux homosexuels en disant qu'ils sont responsables du sida et du coronavirus. Et voilà, et que tout ça aussi, c'est la stratégie des blancs, des colons, justement pour essayer de continuer à dominer les peuples. Voilà, on est dans quelque chose de, à la fois de radical et en même temps de pathologique, mais qui est religieux aussi.
Oui, et il faut bien comprendre que c'est évidemment dans les discours, mais pas seulement. En réalité, ça va bien au-delà et c'est très présent dans l'ensemble du paysage politique. Il y a des grandes messes où on va lire des passages de la Bible. Il y a des matchs de foot où tout cela est aussi présent avec cette fameuse équipe, le Alléluia FC, dans lequel qui est supporté par le président. On a le jeudi qui a été officiellement mis comme jour de prière avec jeûne, etc., etc. Il y a une vraie présence au fond de cette mystique biblique, religieuse dans l'espace public, quoi.
Absolument, absolument. Mais en même temps, avec un petit bémol qui va nous rappeler que c'est aussi la démagogie pour la prise et la conservation du pouvoir, puisque le nouveau président évangéliste de Chimie est lui catholique. Et pourtant, il est toujours dans la même lancée. La parole religieuse radicale est toujours là. Et en fait, pour essayer de légitimer les violations massives des droits humains, je rappelle qu'on a au Burundi, il y a près d'un demi-million, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, des réfugiés, il y a des milliers de prisonniers politiques, il y a des centaines de disparus, et il y a des milliers de femmes violées, et ce pays a ouvert une enquête, justement, pour le crime contre l'humanité. Donc, vous voyez, on est dans une situation à la fois catastrophique sur le plan humanitaire et en même temps des discours à la fois identitaires qui surfent sur l'identité ethnique, mais aussi le religieux.
Mais justement, sur l'identité ethnique, parce que vous dites qu'au fond, ce radicalisme religieux, il a un peu remplacé ce discours ethnique qui était un classique, un triste classique dans la vie politique burundaise. Il faut rappeler que la guerre civile burundaise, elle a été marquée par, évidemment, cette opposition entre Tutsi et Hutu, même si c'est réducteur, et je crois qu'on avait eu l'occasion d'en parler ensemble à ce même micro, de ne parler que d'une guerre ethnique. Mais pour autant, c'est vrai qu'il y a des luttes de pouvoir qui doivent aussi s'analyser à travers cette grille de lecture-là. Comment est-ce que cette question, elle se joue aujourd'hui? Jusqu'où est-ce qu'elle permet de comprendre les luttes de pouvoir à l'intérieur aussi? Parce que il y a aussi des divisions au sein du pouvoir. C'est pas un pouvoir monolithique. Alors comment ça joue ça, Nestor Bidadanouré?
Bon, disons que ce qui est nouveau au Burundi actuellement, c'est que c'est un discours qui a du mal à prendre en réalité. Parce qu'il y a eu, depuis 2005, depuis l'arrivée du CNDD-FDD, beaucoup de répression. Et la répression était contre tous les opposants, que ce soit des opposants Hutu ou Tutsi. Et ce qui est aussi intéressant actuellement, c'est que en réalité, la résistance contre ce pouvoir et le regroupe à la fois les Hutus et les Tutsis. Et vraiment, on a l'impression que c'est un discours qui a du mal à passer actuellement. Mais bon, le problème, c'est toujours l'idéologie, parce que l'idéologie, c'est quelque chose qui n'est pas toujours dans le calcul rationnel. Hein. C'est quelque chose qui est aussi un peu émotionnel. Hein. Donc, c'est toujours là, ce discours à la fois ethnique et religieux. mais Dieu merci, dans la résistance actuelle au Burundi, et on a l'impression qu'il y a une grande démystification de ce discours et que la résistance est devenue transethnique. Mmh.
Peut-être une réaction ici en plateau. Thierry Vircoulon, pardon.
Oui, ce qui se passe au Burundi est très intéressant parce que quand on parlait du discours religieux du CNDD-FDD, c'est le signe qu'à une époque où il n'y a plus d'idéologie, notamment du côté de la gauche, en fait, la seule matrice idéologique, ça devient la religion. Et on le voit en Afrique où on est maintenant... évidemment, dépasser les questions de marxiste-léniniste, etc., etc. Maintenant, la plupart des discours politiques ont pour origine des discours religieux. Et ça, je pense que c'est un élément d'évolution qui est fondamental. On le voit aussi bien dans des pays musulmans que dans des pays chrétiens, où vraiment la pensée politique de ces pays et des politiciens de ces pays a une origine religieuse, a une matrice religieuse.
Ouais, en l'occurrence, le Burundi est à majorité, enfin en tout cas, les chiffres qu'on a, à majorité catholique. Gentilouis, un mot, non ? Pas plus.
Plus que ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas à vous, Nestor Bidananouré, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes philosophe écrivain. Vous aviez écrit notamment il y a quelques années un livre intitulé « N'éteignez pas la lumière » qui était un livre consacré, un livre de réflexion sur la pensée de Nelson Mandela et sur ce qu'elle peut nous permettre dans les combats politiques actuels. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à nos deux invités, Thierry Vircoulon et Johan Tilwin, de nous avoir aidés, éclairés sur cette difficile, pour le moins, en transition du côté de la RDC. Thierry Vircoulon, je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IFRI, Johan Tilwin, journaliste au Monde Afrique. Et je rappelle peut-être pour les auditeurs, Johan Tilwin, que vous aviez signé l'année dernière un livre qui était paru chez Stock, L'Affairiste, l'incroyable histoire d'Alexandre Djouri, de Sarcelles à l'Élysée. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle également aux auditeurs qu'ils peuvent réécouter toute cette série africaine qu'on a consacrée à cette question de la transition en Afrique sur la page de Culture Monde. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gedbert à la grande table. Mais d'abord, c'est évidemment Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et cette semaine, Brice, vous nous emmenez du côté des États-Unis. La montée de l'intolérance sur les campus américains que vous décriviez cette semaine ne semble pas limitée au monde universitaire, Brice.
Oui, et c'est relativement nouveau. Aux États-Unis, la vie politique avait été marquée entre les années 40 et 90 par un relatif consensus. Il n'était pas rare à cette époque qu'un président républicain gouverne avec une chambre des représentants à majorité démocrate. Et jusque dans les années 60, vous aviez des démocrates de droite dans les États du Sud et des républicains de gauche sur la côte Est. Aujourd'hui, au contraire, le parti républicain est devenu le parti des blancs, des ruraux, des petites villes et des chrétiens. Le parti démocrate, le parti des minorités, des jeunes diplômés et des urbains. Les programmes des deux partis se sont considérablement écartés d'une ligne moyenne autour de laquelle étaient bâtis les équilibres d'autrefois. Plus inquiétant, la polarisation partisane affective. En 1980, plus de 40% des démocrates avaient encore une bonne opinion des républicains et ces derniers le leur rendaient dans les mêmes proportions. Eh bien, depuis une vingtaine d'années, l'hostilité mutuelle s'est installée, au point que les candidats, pour inciter les électeurs à voter, misent à présent sur l'aversion que leur inspire l'autre parti. C'est ce qu'on appelle le « negative partisanship ». Évidemment, Internet, ses moteurs de recherche, ses réseaux sociaux portent une responsabilité considérable dans cet écartèlement idéologique. Leurs algorithmes nous enferment dans des silos cognitifs étrangers les uns aux autres. Leurs bulles de filtrage nous donnent à lire et à voir, ce qui ne manquera pas de renforcer nos idées préconçues. L'isolation électronique des gens avec lesquels nous sommes en désaccord permet au biais de confirmation, à la pensée de groupe et au tribalisme de nous écarter toujours plus les uns des autres. C'est ce qu'écrivent Haidt et Loukianov dans le livre que j'ai cité toute la semaine. Des voisins qui partagent la même pelouse finissent par vivre dans des univers symboliques rigoureusement étrangers l'un à l'autre, comme le montrait le JT de France 2 mardi soir. Dans le même temps, les Américains ont déserté les 3 ou 4 réseaux de télévision grâce auxquels ils s'informaient, tandis que les médias mainstream, comme l'essentiel des quotidiens américains, tendaient vers une gauche modérée, montait la concurrence de nouveaux médias, des sites et des radios ultra-conservateurs, voire franchement conspirationnistes.
Et alors, Brice, qu'en est-il du monde universitaire cette fois?
Vous savez, les universités ont toujours penché plus ou moins à gauche, en particulier dans le département d'humanité et de sciences sociales. Jusqu'en 1990, le ratio des professeurs de gauche par rapport aux professeurs de droite était encore de 2 contre 1. Mais cela a changé à partir des années 90. Les enseignants ayant connu la Deuxième Guerre mondiale ont alors pris leur retraite, tandis que leur succédaient des baby-boomers beaucoup plus à gauche. En 2011, le ratio gauche-droite du corps enseignant américain a atteint 5 pour 1 et dans les humanités et sciences sociales, il était de 10 pour 1. Mais c'est du côté des étudiants que Haidt et Loukianov observent le changement le plus radical. À la rentrée universitaire 2013, les enseignants ont découvert qu'ils avaient affaire à des étudiants psychologiquement vulnérables, les cas de dépression ont explosé, susceptibles, ils se sentent aisément agressés et surtout hyper politisés. La sociologue Jean Twinge a baptisé « I Generation » les personnes nées à partir de 1995. C'est en effet la première génération à avoir grandi l'iPhone à la main, à avoir connu Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat dès l'adolescence. C'est une génération qui a été hyper protégée par ses parents, mais qui n'est pas à l'aise dans les rapports face à face, tant elle est habituée à communiquer en solo via les outils numériques. Alors ça présente des avantages. Les sondages montrent que les moins de 25 ans conduisent plus tard une voiture, boivent moins d'alcool, font preuve de prudence dans le domaine sexuel. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur les campus, lors donc de l'automne 2013, ils avaient accumulé moins de périodes hors de la surveillance d'adultes et moins de temps offline qu'aucune autre génération précédente, écrivent Haidt et Loukianov. Et Jean Twenge, de son côté, constate, je cite, « À 18 ans, ils agissent comme le faisaient jusque-là ceux de 15. Ils sont physiquement en meilleure santé que jamais, mais ils sont mentalement vulnérables. » Et ils éprouvent un besoin tenace de faire partie d'une équipe et une peur panique d'être laissés de côté. Nouvelle citation, « Leur besoin de sécurité inflige un dommage collatéral à la culture universitaire de libre examen, parce qu'il enseigne aux étudiants à considérer des propos comme violents et à cataloguer les idées et ceux qui les prononcent en dangereux ou bien inoffensifs, plutôt qu'à distinguer le vrai du faux. » Cette hypersensibilité, associée à une hyperpolitisation, explique l'étrange propension à la censure, aux chasses aux sorcières et les campagnes de diffamation en masse sur Internet. Des auditeurs m'ont écrit que cette situation était propre aux pays anglo-saxons, mais qu'elle épargnerait la France. Eh bien, à entendre Geoffroy de Laganerie hier matin sur France Inter réclamer, je cite, « la censure pour les opinions qu'il qualifie d'injustes », je n'en suis plus si sûr.
Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique. On peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain en version numérique, hein, pour ceux qui y suivent. Lundi, pour les auditeurs qui aiment avoir l'oreille sur le poste. Voilà. Donc, très bon week-end, Brice. À lundi.